Shalom et Koulam, Boker Tov les Koulam. Et on est lundi. Et donc le lundi, eh bien, nous avons notre étude sur la Tfila, Shmoné Esrei. Et donc, nous revenons dans notre étude de la Tfila et nous sommes arrivés à la bracha numéro 9. Neuvième bracha de la Shmoné Esrei, c'est-à-dire qu'on est arrivé presque à la moitié de la Tfila, puisque comme vous le savez, la 18, qu'on l'appelle la 18, la Shmoné Esrei, en fait, elle a 19 brachot, oui, évidemment. Donc, on est arrivé à la 9e. Et en vérité, cette 9e bracha, c'est la dernière bracha des bakashot qui peuvent être également personnelles. C'est-à-dire, nous avons après cela des brachot, des demandes qui correspondent uniquement aux besoins du peuple juif. Geoula, Mishpat, Yerushalayim, ce que vous voulez. Jusque-là, on a demandé des choses qui peuvent être demandées au niveau individuel, même en période d'exil. Donc, nous sommes dans la dernière bracha avant la bracha de la Géoula, avant la bracha de la libération, avant la bracha de Teka Beshofar Gadol. Donc, toutes les brachot qui arrivent jusqu'à maintenant, eh bien, en fait, elles vont crescendo. Qu'est-ce que ça veut dire, elles vont crescendo? Eh bien, on ne peut pas arriver à l'autre sans passer par la précédente. Agave, ça sera vrai encore plus tard. Nous dit le Talmud, dans le traité de Megillah, la page 17, que seder aberachot ou le ikuva. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que halachiquement parlant, je ne peux pas dire la Shmoné Esrei dans l'ordre que je veux. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis très chaud pour la refoua, donc je vais d'abord dire la bracha de la refoua et puis après, je parlerai des autres. Non. L'ordre qui est marqué dans le sidour, eh bien, est nécessaire pour que la tfila soit considérée comme telle. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que les différentes étapes qui sont demandées dans la tefila, eh bien, on ne peut pas arriver à une étape X sans être passé par l'étape d'avant. Et donc, on comprend que si on n'a pas demandé de da'at, si on n'a pas de conscience minimum, eh bien, on ne sait pas qu'on est éloigné de Dieu. Si on ne sait pas qu'on est éloigné de Dieu, eh bien, on ne peut pas prendre conscience qu'on a également des fautes. Si on a fait des fautes et qu'on ne les a pas, qu'on n'a pas demandé pardon, comment tu veux? À ce moment-là, alors je reprends, hein, évidemment, je reprends dans ce qu'on a déjà vu. Si tu as fait des fautes, eh bien, comment est-ce que tu peux demander que Dieu te sorte de tes situations problématiques? Tu n'as qu'à d'abord corriger tes problèmes à toi. Et ensuite, eh bien, une fois qu'il t'a sorti tes situations problématiques, alors tu peux t'occuper de ta réfoua personnelle. C'est vrai que si tu es d'abord attaqué par l'extérieur, eh bien, il faut d'abord te sortir de cela avant de prendre ton doliprane. Et donc, nous arrivons maintenant à la bracha de la Parnassa. Eh oui, la bracha de la Parnassa, parce qu'on ne s'occupe pas de la Parnassa tant qu'on n'a pas fini d'abord de s'occuper, par exemple, de la refoua. Si je suis malade, ce n'est pas maintenant que je vais commencer à chercher un boulot. D'abord, je cherche à être guéri de ma maladie et ensuite, je vais chercher à travailler. Rabotai, cette neuvième bracha, donc Birkat à Parnassa, eh bien, comme je viens de le dire, elle est l'Ikuva, c'est-à-dire qu'il faut la dire au moment où il faut la dire, il ne faut pas la dire après. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire une chose très importante. On va passer d'abord par Birkat Hashanim, à Parnassa, avant la Geoula. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut d'abord que ce monde soit un monde dans lequel il fait bon vivre, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'abondance matérielle dans ce monde avant de parler de Géoula. Pourquoi est-ce que je parle d'abondance matérielle? Eh bien, tout simplement parce que c'est le propos de notre bracha. Alors, je prends la bracha qui nous dit la chose suivante. Barech aleinu Hashem Eloheinu et Hashana Azot ve'et kol minei tevuata letova ve'ten beracha u'tal ten talumata livracha en hiver al pene adama ve'sabenu mituva uvarech she'atenu kashanim atovot livracha. Kiel tov metiv atam varech hashanim, baruch ata Hashem, mevarech hashanim. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai lu rapidement. Là, j'ai lu le Noussar Sfard, mais est-ce qu'il y aurait un mot qui reviendrait plusieurs fois dans la bracha, suffisamment de fois pour que ce soit quelque chose qui en devienne à relever? Alors, je vais redire la bracha. Barech aleinu Hashem Eloheinu et Hashana Azot. ואת כל מיני תבואה אתה לטובה ותן ברכה על פני אדמה. וסבנו מטובה וברך שנתנו כשנים הטובות לברכה. כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים, ברוך אתה השם מברך השנים. רבותיי, je viens de compter six fois dans la bracha, dans le Noussar Sfard, six fois où on nous parle de la notion de beracha. Shalom avozi. Donc six fois où on nous parle de la notion de beracha. Quand tu regardes le nusach Ashkenaz, barer Hashem Eloheinu, Hashem Eloheinu et Hashana Zot ve et kol minei tevuata letova ve ten beracha al pnei adama ve sabim tovar uvarer shatan kashanim atovot baruch ata Hashem mevarer hashanim. Il n'y a que quatre fois dans le nusach Ashkenaz qui a tendance à être de toute façon très rikiki à chaque fois dans les mots. Mais quand vous parlez du nusach Sepharad et d'Ota Mizrach, alors là, la méhadrin. Alors, en été, on a « Barrenu Hashem Eloheinu b'chol ma'aseh yadenu, barrech shenatenu b'tal ratzon beracha ondava, utei achari et hachayim v'sova shalom u'shanim atovot livracha, ki el tov u'metivatam v'arech hashanim, baruch ata Hashem v'arech hashanim. » Là aussi, on en a six. Mais quand on regarde le choref, alors bichlal, « Barrech alenu Hashem Eloheinu et hashana azot v'et kol minit v'ata letova v'ten talu matar livracha, על פני האדמה, ורבי, פני, תבל, וסבא את העולם כולו מטובך, ומלא ידן בברכותיך, ומאושר תנובה, מתנות ידיך, שומרה והצילה שנה זו מכל דבר רע, ומכל מיני משחית, ומכל מיני פורענות, ועשה לה תקווה טובה ואחרית שלום, חוץ ורחם עליה, ועל כל תבואתה ופירותיה, וברכה, וגשמי רצון ברכה, ונדבה, תהיה אחרית החיים וסבא ושלום, כשנים הטובות לברכה, כי אל טוב ומטיב אתה מברך השנים, ברוך אתה השם מברך השנים, ויפואה, la beracha, cette fois, on nous parle de la notion de beracha. Il semble donc évident que la notion principale de cette beracha, c'est la beracha. Mais ça veut dire quoi, la beracha? Qu'est-ce que ça veut dire, beracha? Mais rabotai, beracha, je ne sais pas encore ce que ça veut dire, mais c'est l'inverse de la kedusha. Oui, la beracha, c'est l'inverse de la kedusha. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, lorsqu'on nous dit dans le livre de Bereshit, dans le Kiddush, Vaivarech Elohim et Yom HaShevi'i Vaikadesh Oto, alors, tout de suite, nos sages vont demander, mais c'est comment? Bema Bircho. Et répondent nos sages, Rashi ramènera ça dans son commentaire, Bema Bircho Beman. Y a-t-il une question, s'il vous plaît? Une question, s'il vous plaît. Y a-t-il un lien entre la Teshuvah et la Geoula? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a un lien entre la Teshuvah et la Géoula, pour être exact, la Teshuvah, c'est la première étape de la Géoula. La Teshuvah par excellence, telle qu'elle est marquée dans la Torah, c'est le fait de revenir en Eretz Israël, qui est le point de départ de la Géoula. Donc évidemment, il y a un lien très profond entre la Teshuvah et la Géoula. Donc je reviens à ce que je disais. Lorsqu'on nous dit « Bema Bircho », on nous dit « Beman ». C'est-à-dire que le vendredi, c'est tombé deux fois double ration de man. Et quand on te dit « Vaikadesh oto », on te demande « Bema kidsho », réponse également « Beman ». Alors, la Teshuvah ne viendra que lorsque la souffrance sera insupportable. Non, pourquoi? Non, je n'ai pas compris la question. Je ne comprends pas, Rabotai. Attendez, vous allez trop vite pour moi. Alors, la tchouva ne viendra que lorsque la souffrance sera insupportable. Non, pourquoi? Je n'ai pas compris. La tchouva, la notion de tchouva, telle qu'elle est mentionnée dans la Torah, dans la paracha de Nitzavim, « Veshavta ad Hashem Elohecha, veshamata bekolo, veshav Hashem ekibetzra mikol ha'amim, asher edichacha shama. » C'est-à-dire que la tchouva, le retour à Dieu, au niveau du peuple d'Israël, Non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On n'a aucunement besoin d'effondrement, quoi que ce soit. La notion de Teshuvah, vous demandez ce qui est la notion de Teshuvah. La notion de Teshuvah dans la Torah, c'est d'abord et avant tout au niveau du peuple juif, un retour en Israël. Puisque je vous rappelle que le mot Teshuvah veut dire retour. Donc, dans la Torah, la notion de Teshuvah, c'est à mettre en relation directe avec un retour en Israël. La Géoula, ça n'a rien à voir. La Géoula, enfin, ça n'a rien à voir. Oui, ça a tout à voir, mais je veux dire, la Géoula, ce n'est pas la Teshuvah. La Géoula, c'est l'indépendance nationale. Il est évident que pour avoir une indépendance nationale en terre d'Israël, il faut être revenu. Ben oui, tu ne peux pas avoir d'indépendance si tu n'es pas rentré à la maison. C'est barreau. Ceci étant, pour ce que tu dis, Alex, entre la Machloket, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, est-ce que la Géoula dépend de la Teshuvah? Alors que Rabbi Eliezer dira que oui, Rabbi Yehoshua dira que non, eh bien effectivement, la halakha est comme Rabbi Yehoshua, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu ne va pas attendre est-ce que toi et moi individuellement, est-ce que tous les individus du peuple juif, on a fait Teshuva pour nous amener la Géoula? Il nous amène la Géoula parce qu'il a envie de nous amener la Géoula. Cependant, et donc, il fera en sorte que Am Israël sera de retour à ce moment-là, ce qui s'est d'ailleurs passé. Est-ce que toi et moi, on va prendre le train en marche? Eh bien, ça dépend de nous. OK? Donc, non, la Géoula ne dépend pas du tout de l'effondrement, quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas parce qu'on mettra mieux les tefilines qu'on aura la délivrance. Je rappelle simplement que la Géoula, nous ne l'attendons plus, puisqu'elle est arrivée il y a de soi 73 ans. Ça fait 73 ans que la Géoula a commencé. Donc, jusque-là, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de passer par du tout un effondrement économique, catastrophe écologique ou quoi que ce soit. OK? Quoi qu'il en soit, donc je reviens sur mon histoire de bracha. La bracha, c'est donc... Donc, quand on a dit « Bema birro », on a dit « Beman » et « Bema kitcho » Beman, c'est également la manne que le Shabbat, il n'y a pas de manne. En d'autres termes, la beracha, c'est quand il y a un surplus de manne. Quand, c'est quoi la kedusha? C'est quand il n'y a pas de manne. Ah, c'est sûr! C'est sûr que le retour en Terre Sainte va s'accélérer. C'est évident que eh bien, les événements qui sont en train de se passer depuis le début de la Géoula sont là pour nous aider, nous, en tant qu'individus, à prendre conscience, à prendre le train en marche. Donc, évidemment que, vous parlez du corona, du réchauffement climatique, de tout ce que vous voulez, on peut parler des attentats, chas v'shalom, toutes ces choses-là font avancer les choses. Mais encore une fois, on n'est pas du tout obligé de passer par là. Combien de gens j'ai connus qui ont dit qu'ils ont fait leur alia parce qu'ils se sont fait agresser dans le métro? Quoi? T'aurais pas pu faire ton alia sans te faire agresser dans le métro? Donc, il y a des événements qui sont là et que Akadosh Baruch Hu met en place pour que eh bien, sa volonté soit remplie. Maintenant, encore une fois, on n'est absolument pas obligé de passer par des malheurs pour comprendre qu'il faut faire ce que Dieu nous a demandé. Non, non, t'inquiète pas, j'ai pas... Non, la Géoula est arrivée il y a 73 ans, le 5 Iyar Hatashar, ou alors le 14 mai 1948, tu choisis la datation que tu préfères. Quoi qu'il en soit, donc ma bracha, je reviens à ma bracha. La bracha, c'est donc la définition de la bracha, c'est une abondance matérielle. D'ailleurs, là je vous l'ai expliqué d'après le Midrash, mais en fait, quand on regarde la Birkat Kohanim, eh bien, dans le pasouk de la Birkat Kohanim, eh bien, on nous dira quoi dans le livre de Bamidbar? Yevarech echa Hashem veishmerecha. C'est comme ça que ça commence. Rashi nous explique que veut dire le mot Yevarech echa, dans Yevarech echa Hashem veishmerecha. C'est ce à quoi doivent penser tous les Kohanim dès qu'ils font la bracha et tous les papas lorsqu'ils bénissent leurs enfants Shabbat. Rashi, yirbu nechasecha. Que tes biens matériels grandissent, que tu aies un gros compte en banque. Donc, c'est quoi la bracha de Barchenu Mevarech Hashanim? C'est qu'il y ait une abondance matérielle. Matérielle, pas spirituelle. La bracha, c'est l'abondance matérielle. Il y a plein à bouffer. Naron, un bon compte en banque, bien gros, bien comme il faut, avec plein de zéros derrière. Naron, ça s'appelle la beracha. Et regardez que dans cette bracha, on va demander par opposition à ce qu'on avait demandé dans la bracha de la Refoua. On avait dit « Refait cholé à mot Israël », on s'était limité à Israël, on avait expliqué pourquoi. Ici, eh bien, « Barchenu alenu, barich alenu shetra, Hashem Eloheinu et Hashana azot, et tova, et kol minet tivouata le tova, slicha, et ten beracha, al kol pene adama. » C'est-à-dire que là, pour le coup, la bracha, on la demande partout dans le monde. On demande l'abondance partout dans le monde. Pourquoi? Eh bien, pour deux raisons. La première, elle est purement personnelle. C'est-à-dire que vu qu'on parle de cela comme étant une bracha qui précède la Géoula, donc ça veut dire que pour l'instant, les Juifs sont encore bagalout. Et il faut que ces Juifs bagalout se refassent une santé matérielle pour pouvoir réaliser la Géoula, c'est-à-dire le retour en terre d'Israël. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'est passé. Comment est-ce qu'on a amené finalement à la Géoula, c'est-à-dire à la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël? Eh bien, c'est parce qu'il y avait... En Israël, à ce moment-là, 600 000 personnes, 600 000 juifs. Pas personne, il y avait des Arabes, mais 600 000 juifs. Comment ça se fait qu'il y avait 600 000 juifs? Eh bien, parce qu'il y avait eu d'abord l'Aliya Rishona, l'Aliya Shnia, l'Aliya Shlishit. Comment ça a fait quoi? Pourquoi le Massiar lépreux. Pourquoi le Massiar lépreux? Les amis, que les choses soient bien claires. Toutes les phrases, les névoot, qui ont été données dans le Tanakh et dans le Talmud, qui parlent du Mashiach comme quelqu'un qui se pense ses blessures. Faites allusion à cette Gemara qui nous raconte que le Mashiach est dans le camp des lépreux et pense lui-même ses blessures. Il s'enlève ses bandages, se remet ses bandages. Ce ne sont absolument pas des descriptions officielles de Monsieur Mashiach à quoi il ressemble. Ce sont tout simplement des rôles qu'il a à jouer. Et parmi les rôles qu'il a à jouer, le Monsieur Mashiach, est d'amener tout simplement un retour à, comment dirais-je en français, un retour à ce qu'on doit être. La lèpre, dans la Torah, ça n'a pas vraiment de rapport avec notre bracha de la part de ça, mais enfin bon, vous avez déjà posé la question, donc je réponds. La lèpre dans la Torah, il ne s'agit pas d'une maladie purement médicale. Elle vient à chaque fois lorsque tu as tenté d'atteindre un niveau qui n'était pas le tien. Que ce soit en disant du Lashon Hara ou que ce soit comme Amatziah ou Melech Yehuda qui a tenté de faire le boulot du Kohen Gadol alors qu'il n'était que le roi d'Israël. Il ne pouvait pas remplir le rôle du Kohen Gadol. En d'autres termes, la lèpre, elle vient lorsque tu tentes de rentrer en contact avec un niveau qui n'est pas le tien. Le Mashiach qui vient dans le camp des lépreux, qui lui-même eh bien, est capable de gérer cette lèpre, eh bien, c'est justement qu'il est capable de ramener à chacun d'entre nous sa place et son identité. C'est-à-dire, maintenant, pour revenir à mon histoire, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était nécessaire pour qu'il y ait un État d'Israël, qu'il y ait des Juifs qui soient là, et pour qu'il y ait des Juifs qui soient là, il a fallu, sinon ça n'aurait pas marché, eh bien, le soutien incommensurable du baron de Rothschild et de ses amis, le baron Touro, le baron comment ça s'appelle, Moshe Montefiore et d'autres. C'est des Juifs qui avaient beaucoup, beaucoup d'argent, qui avaient, Baruch HaShem, une bracha énorme, qui ont pu faire en sorte que la Géoula se mette en place petit à petit. Donc ça, c'est pour ce qui est d'un point de vue purement personnel, individuel, peuple juif. Mais pourquoi est-ce qu'on demande également la Beracha Bekol HaOlam Kulo? Eh bien, parce que la Géoula, même si elle est d'abord tournée vers le clan Israël, elle a un rôle, et le dévoilement de Dieu a un rôle pour l'humanité tout entière. Et donc, qui souffre complètement, qui n'a pas de quoi manger. Donc, il faut qu'il y ait une parnassa, Bechol HaOlam Kulo. Et c'est pour ça qu'on te dit, V'ten Beracha Alpene Adama. On parle ici donc d'une abondance matérielle. Évidemment que pour une société de l'époque, qui est une société à 98% agricole, c'est quelque chose qui parle encore plus, l'abondance matérielle au niveau de la pluie. C'est ce que promet Dieu d'ailleurs dans la Torah. Dans la Torah, dans la paracha de Bechukotai, on nous dit, si tu fais ce qu'il faut, alors qu'est-ce que je vais donner ? Je donnerai de la pluie, parce que la pluie, ça permet d'avoir une bonne récolte, et donc c'est ce qui s'appelle un gros compte en banque. Si on avait dû écrire la Torah en 2020, on t'aurait dit, si tu fais ce qu'il faut, eh bien, je ferai en sorte que ta start-up, elle marche bien. C'est-à-dire ? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire là maintenant ? Mais on est en train de dire que pour avoir la Géoula, il faut d'abord passer par une abondance de la terre, matériellement parlant. Et c'est pourquoi, eh bien, lorsqu'on va demander au prophète, qu'est-ce que c'est pour toi la Géoula ? C'est quoi the névoa de la Géoula ? Eh bien, nous dira le prophète Yechezkel au chapitre 36, il nous dit la chose suivante, verset 8. Datem are Israël, anpechem titenu, biriechem tisu le ami Israël qui kirvou lavo. Nous dit le prophète Yechezkel, quel est le marqueur que la Géoula est là pour justement préparer à la venue des Bnei Israël en masse? Eh bien, il faut quoi? Il faut que, eh bien, Arei Israël, anpechem titenu, piriechem tisu. Il faut que la terre d'Israël redonne ses fruits. Nous dira le Talmud, dans le traité, encore une fois, de Megillah, que en lecha ketz megoulé misé. Il n'y a pas de plus grande. Dans le traité de Sanhedrin, à la page 98, nous dira le Talmud, il n'y a pas de ketz megoulé, c'est-à-dire de dévoilement plus clair de la Géoula que cela, que le fait que la terre donne ses fruits. Et c'est assez incroyable parce que si vous regardez tous les différents explorateurs qui sont venus en Israël ces 2000 dernières années, juifs ou non juifs, il y avait toujours le même constat, que ce soit Chateaubriand, que ce soit Mark Twain, que ce soit Rabbi Binyamin Mitudella, Rabbi Ovadia Mibartenura, tous ont dit la même chose, le même constat, c'est un désert ici. On n'arrive rien à faire pousser. Genre toutes les civilisations qui ont essayé de s'implanter en Israël, pendant 2000 ans d'exil, Shum Davar, le désert. Tout d'un coup, les Juifs commencent à revenir. Ils commencent à planter des choses dans le sol. Et c'est le Gan Eden. Et ça pousse au centuple. Vira Botay. En lecha ketz megule mise. En d'autres termes, l'étape de base qui permet d'arriver à la Géoula, c'est lorsque la terre d'Israël redonne ses fruits. Ce n'est pas lorsque Am Israël remet les tefilines. C'est très bien de mettre les tefilines, je suis pour. Mais ce n'est pas parce qu'Am Israël y met les tefilines que tu peux avoir la Géoula. La Géoula, c'est lorsque la terre d'Israël se prépare à recevoir ses enfants. Parce qu'on a dit tout à l'heure, la tchouva, la vraie, c'est quand Am Israël revient à la maison. En d'autres termes, la Géoula et la tchouva, on a dit tout à l'heure, sont intimement liées. Et on va aller au-delà de cela. Ça veut dire quelque chose de fondamental. Ça veut dire que lorsque tu vois que la terre d'Israël, agricolement parlant, est propice, eh bien, c'est que tu sais que c'est le déclic pour toi de venir. Aujourd'hui, va te balader dans le chouk Machane Yehuda. Va te balader dans le chouk à Carmel, à Tel Aviv. Gan Eden. Gan Eden, allez à Damot. Aujourd'hui, il y a des récoltes extraordinaires en Israël. Une abondance matérielle fantastique. Le pays de la start-up. Start-up nation, comme on dit. Ce qui montre que c'est le moment, au cas où tu n'aurais pas encore compris, de participer à cette Géoula. Actuellement, la terre d'Israël n'est-elle pas la seule où le désert est remplacé par des terres fertiles? Ben voilà, voilà, vous avez bien dit. Je ne pourrais pas dire mieux. Nachon, aujourd'hui, la terre d'Israël, par l'intermédiaire du peuple d'Israël qui est revenu dessus, eh bien, a été capable de refaire fleurir le désert. Voilà, on a des fruits incroyables qui sortent de la Arava, qui sortent du désert du Negev, dans des endroits où pendant des milliers d'années, on n'a jamais essayé de faire pousser quoi que ce soit, parce que même dans les endroits où il y avait de la pluie, ça ne marchait pas. Alors t'imagines là-bas. Et aujourd'hui, tu vas là-bas, tu vas dans le Negev, tu vas à Talmé Yosef, tu vas trouver des fraises, des tomates, des trucs de malade, qui montrent à quel point, eh bien, ça y est, la terre d'Israël s'est recouverte de fruits, et elle est donc tout à fait apte à recevoir ses enfants. Et ben, en fait, la bracha de la Parnassa, bracha qui d'ailleurs, une question à laquelle on n'a pas répondu, mais elle est évidente. Pourquoi est-ce que dans le Noussar Sfarad, la version hiver, elle est fait une paracha, alors que dans la notion été, c'est plus ou moins le même texte que chez les Ashkenazim, la version hiver ou été. Chez les Ashkenazim, la seule chose qui change, c'est qu'on dit « Veten beracha » en été, « Veten talumatar livracha » en hiver. Wouhou ! Alors que tu vois que chez les Sfaradim, c'est vraiment un changement. Et pour une raison très simple. C'est parce que pendant 2000 ans, les Sfaradim ont été dans des terres arides, c'est-à-dire dans des terres qui avaient plus ou moins le même climat qu'Eretz Israël, et que donc, en été, il ne pleut jamais, et en hiver, s'il ne pleut pas, c'est une catastrophe. Donc en hiver, il y avait vraiment une notion de tfila mamash. Alors que les Ashkenazim, le mec qui habite en Angleterre, il pleut toute l'année, il pleut en mois de juillet, au mois d'août. C'est-à-dire pour lui, la notion de « il pleut », ce n'est pas tellement important pour lui parce qu'il sait qu'il va pleuvoir. Donc, on comprend pourquoi il y a cette différence. Mais on parle ici de cette nécessité d'avoir, eh bien, une abondance matérielle. C'est ça qu'on demande, Baruch Ata Hashem, Mevarer Hashanim, qu'il fasse que cette année soit une année d'abondance matérielle. Évidemment que dans cette année de Corona, où il y a énormément de gens qui ont été touchés par cette abondance matérielle, mais moi, personnellement, en tant que, parce que je ne suis pas que rabbin, je suis également guide touristique en Israël, je peux t'assurer qu'au niveau touristique, tu en as pris un sacré coup, c'est évident. Et donc, on prie pour que Be'ezrat Hashem, cette année qui n'est pas encore terminée, bien évidemment, eh bien, soit une année de Shefa, de Bracha et de Parnassa. Et donc, on comprend très bien que s'il n'y a pas de Parnassa, on ne peut pas, alors, soit arriver à la Géoula quand on n'y est pas encore, mais quand on y est déjà arrivé, eh bien, on ne peut pas faire avancer la Géoula si on n'est pas bien dans ses pompes, si on n'a pas une bonne Parnassa. Puisque si on n'a pas de Parnassa, on est taroud, on est préoccupé continuellement par le fait d'avoir ou de ne pas avoir d'argent. Et donc, on ne peut pas s'occuper à véritablement dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que juste avant de passer à la bracha de la Géoula, eh bien, nous demandons à Kadosh Baruch Hu qui nous donne une situation matérielle très bonne qui nous permettra de nous occuper de la seule véritable chose qui est importante, à savoir le dévoiler, qui commencera ce dévoilement dans la bracha de la Géoula, qu'on verra la semaine prochaine. À bientôt.